Bonjour à tous et Samy. Bienvenue sur le podcast InVoVo, le podcast qui, en plein confinement de Covid-19, vous permet de partir à la rencontre de super personnes et initiatives à Madagascar, mais aussi au sein de la diaspora malgache. Pour le 18e épisode, j'ai rencontré pour vous l'écrivain, romancier, Monsieur Nzou, qui a aussi une autre casquette que vous découvrirez dans cette interview de 40 minutes. Et trop bien, en plus, on apprend ce qui mijote sur le feu pour le reste de l'année 2020 et l'année 2021. Allez, c'est parti! Bonjour Nzou et merci de m'accorder cette interview.
Oui, bonjour Samy, enchanté, je suis... Je suis, comment dire, j'aime bien l'idée de commencer cette interview.
Merci beaucoup. Est-ce que tu peux, Nzou, te présenter en quelques mots? Qui es-tu?
Donc, je suis un écrivain, tout d'abord. J'aime bien dire et me présenter et penser aussi que je suis avant tout un écrivain bilingue. On me connaît sous le nom de plume de Monsieur Nzou. C'est aussi mon nom d'artiste. Je suis aussi un artiste, donc c'est écrivain, artiste. Et je suis plusieurs choses à la fois.
Ouais.
Mais dans un état d'esprit de c'est cohérent. Toutes ces choses ne rentrent pas en contradiction.
C'est plusieurs choses te complètent et font ce que tu es, en fait.
Oui, quelque chose comme ça, exactement. Ça me complète et ça... Disons que ça magnifie aussi cette existence humaine qui est la nôtre. J'essaie de... Pas de combler un vide, mais de faire de mon mieux pour ne pas être emporté dans quelque chose qui, je dirais pas qui m'ennuierait, mais quelque chose qui ne m'irait pas. Grosso modo, je suis ça.
D'accord. Et tu disais justement que ton nom d'artiste, c'est Monsieur Nzou. Pourquoi avoir choisi cette appellation?
Ah, alors, à la base, c'est plutôt cette appellation qui m'a choisi. En étant enfant, il y avait des personnes de mon entourage, de la famille, qui avaient tendance à m'appeler Mo Xianzhu. C'était avec une pointe de moquerie.
D'accord.
Au début, quand j'étais petit, je n'appréciais pas tellement parce que c'était quelque chose de... Il y avait une sorte de c'était pas quelque chose de vraiment joyeux, tu vois. C'était pas quelque chose dans un bon sens du terme. Mais disons que peut-être n'étais-je pas comme les autres, étais-je, je sais pas, un peu bizarre. Et le monsieur, c'est quelque chose de, je sais pas, pour me recadrer, pour me cataloguer, pour me rayer aussi quelque part de la normalité, ou bien pour me tenter de me cadrer. Ça a commencé quelque part pas là, et ensuite en grandissant, j'ai rencontré Goscinny qui est Astérix et Obélix. Goscinny, c'est le scénariste. Et que j'ai tout de suite adoré. Il y avait le Monsieur Astérix, Monsieur Obélix. C'est quelque chose que... Et je me suis dit que de passer à quelque chose d'une moquerie, à quelque chose que je vais faire, que je vais intégrer, que je vais assumer, que je vais transformer, sublimer en quelque chose d'autre. Il y a aussi ce côté, bien évidemment, ce côté mondialisation. Nzou, c'est le diminutif d'un prénom long, très long. Et monsieur, je suis le fruit d'une mondialisation et j'aime bien cette idée. J'aime bien l'idée que je suis le fruit d'une mondialisation vertueuse qui aurait marché. J'aime bien cette idée.
C'est magnifique ce que tu dis là. Mais est-ce que du coup, tu peux nous dire ton nom à l'état civil, c'est quoi maintenant qu'on y est là?
Mes prénoms, c'est Anjan Narva.
D'accord. Okay.
Oui. Et Anjan Narva, et puis le petit nom, le diminutif, c'était Nzu. Donc, avoir la bonne idée de me prénommer de façon assez originale, mais de m'appeler d'une façon monosyllabique, aussi originale, c'est quelque chose comme ça, qui fait de moi ce que je suis.
Est-ce que tu peux nous faire part de ton parcours ?
Mon parcours est assez particulier. Ceux qui me connaissent, je ne sais pas, avant, au lycée, au collège et tout ça, je pense qu'ils ont souvenir de moi d'un élève doué. Certains quand je les rencontre, quand je les croise, me rappellent cela, que j'étais, je ne sais pas, un bon élève à l'école, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai fini écrivain. J'ai choisi cette voie, plutôt cette voie m'a choisi. Entre-temps, par où commencer ? Alors, entre-temps, j'ai fait de la sociologie, j'ai fait du tourisme, j'ai fait de la décoration d'intérieur, j'ai aussi un parcours professionnel assez. Disons que je n'ai jamais travaillé dans un bureau de toute ma vie, je ne pense pas faire ça, mais ouais, on ne sait jamais, mais je ne sais pas. Dans un cadre particulièrement stimulant, peut-être, où la créativité, c'est cette créativité qui a pris le dessus, qui a pris le dessous sur tout le reste, qui a forgé. Ensuite, j'ai de fil en aiguille, j'étais parti dans ce qu'on appelle l'art, dans un parcours artistique assez intéressant, assez particulier aussi, on s'y perd, quelque part on s'y perd, surtout les autres, je pense, moi je ne m'y perds pas du tout, mais quelque part, pour résumer un peu mon parcours, grosso modo, je ne m'étale pas sur certains sujets, mais grosso modo, c'est à peu près comme ça.
Tu disais que tu étais écrivain. Tu es quel type d'écrivain, Zou ? Dramaturge, romancier, quel type ? Dis-nous en plus.
Je suis surtout romancier dans le sens où je raconte des histoires, je crée des histoires. Dans le romancier, dans le sens raconteur d'histoires ou bien storyteller, comme on dit. J'aime bien porter, ouvrir une porte pour le lecteur, la lectrice, pour proposer une sorte de voyage, un voyage que j'ai façonné de façon que j'aime bien écrire l'histoire que j'aurais aimé lire. Dramaturge peut-être un jour, de fil en aiguille, mais pour l'instant, j'aime bien être romancier.
Est-ce que tu as des romanciers justement qui t'inspirent par rapport à ce que tu écris ?
Oh, oui. Il y en a tellement. Là, de mémoire, je dirais Isaac Asimov. Ces dernières années, je lis plutôt du Jean-Christophe Ruffin. Il y a aussi Antoine de Saint-Exupéry, que je qualifierais de romancier. Le Petit Prince, c'est quelque chose de magnifique, de tellement beau. Il y a aussi, je citerai une romancière malgache, Clarisse Ratsifa de Manon, qui m'a ouvert toute une, tout un univers. Je l'ai découvert, et ah, je me suis dit, ah, on pouvait. Il y avait des romans malgaches de ce calibre.
Elle est
excellente. Je me disais, là, mais les films d'Hollywood, elle a écrit ça dans les années 60, 70, mais les films américains d'Hollywood, là, c'est, par rapport à ça, c'est très en avance. Je trouvais que c'est très en avance. C'est pas de l'amour à l'eau de rose, c'est quelque chose de qui joue aussi avec le temps.
Oui.
Il y avait un roman particulier, Louatona Serine, qui ça me va. Il y a aussi D.N.J. Malala, un géant, un de mes romanciers préférés, pas que malgache, mais de tout. Et non, il y en a Philippe K. Dick, un fou de la science-fiction. C'est Isaac Asimov, c'est aussi de la science-fiction.
Oui,
René Bargevel, il y en a d'autres. Mais ces derniers temps, je suis plutôt du genre Christophe Ruffin, que je trouve formidable.
Sinon, en faisant des recherches sur Internet, parce qu'il fallait bien que je prépare mon interview, j'ai lu dans le No Comment numéro 32 en fait, que tu faisais de la musique. J'étais super étonnée, mais j'ai continué ma lecture et en fait, je vois que tu parles d'électro-hypnotique, tribal, psychédélique. Et à cette époque-là, en fait, tu disais être en studio. Et quand je dis « on », c'est beaucoup plus « moi », mais moi, je ne te connaissais pas aussi dans la musique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Ah, ouais, c'est une facette, disons, c'est assez underground de moi, dans un passé pas si longtemps que ça. Disons que... quand j'ai du temps à perdre, non, je rigole, mais je compose aussi, je compose surtout, je ne me trouve pas, je ne suis pas un bon musicien, je ne suis même pas un musicien moyen, mais je suis une personne hyper créatif, je ne sais pas si ça existe vraiment quelque part, ce mot, mais c'est ce qui me... qualifierait le plus, je dirais, je crée tout le temps, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais. Et quand je vois une guitare ou quelque chose comme ça, je compose. Et il fut un temps, surtout, j'avais un groupe de musique, de groupe de rock, quelque chose comme ça, de rock assez particulier, assez expérimental, on va dire. Et on a fait un petit bonhomme de chemin. J'étais surtout accompagné par deux frères du début jusqu'à... Il y avait d'autres membres qui ont créé un groupe assez connu dans le milieu underground. Mais il y avait surtout deux frères qui viennent du nord de Madagascar, qui étaient et qui sont surtout mes compagnons de musique. Le grand frère, il n'est plus à Madagascar, il habite quelque part en Europe de l'Est, et c'est quelque chose qu'on a mis quelque part en pause et qu'on projette, je ne sais pas, un jour ou l'autre, on a jamais vraiment pensé en faire une carrière. Dans ce sens-là, mais c'était surtout pour se surpasser, pour exprimer aussi, pour exprimer des choses. Je dirais qu'on ne pouvait pas tellement exprimer autrement. C'est quelque chose que je pense sérieusement à remettre avec le confinement et tout ça, coronavirus et tout ça. Je me dis, mais bon peut-être est-il. Est-ce le moment de surprendre, me surprendre, de nous surprendre? Mais on verra, c'est quelque chose de pas facile d'accès. C'est pas pour tout le monde, pas du tout, je pense.
Mais tu parlais de guitare, donc tu joues d'un instrument ou plusieurs instruments?
Non, je dirais juste de la guitare et de la guitare basse, de ces deux-là, un peu, un tout petit peu. assez pour, je sais pas, assez pour composer des choses, des choses que j'aime bien.
Mais écoute, on a hâte, hein, le confinement. On va dire que le confinement, il est propice à de belles choses et on espère qu'à la fin de tout ce bordel, on va voir une affiche qui dit que toi et ton groupe, vous allez proposer quelque chose.
Ouais, c'est vrai, ça se pouvait bien, ça se pouvait bien. En plus, la scène, c'est quelque chose que j'aime bien l'idée de monter, remonter sur scène. Et, ouais, ça, mais dans un cadre, mais vraiment, je sais pas, de assez privé, pas. On verra peut-être. Là, je ne sais pas, je pense à la musique et j'aime bien l'idée. Ce sera peut-être. Ça se fera. Je ne sais pas du tout, mais je pense que tôt ou tard, ça se fera. Ça, j'en suis sûr. Mais quand, je ne sais pas.
Là, je pense qu'on a tout ça. Attends, à part la musique, en tout cas, on te connaît, enfin, moi spécialement, parce que je ne vais pas parler au nom des autres, je t'ai surtout connue grâce à Lied Mianzouri, mais en fait, avant cela, tu écrivais déjà et tu écrivais d'autres livres. Est-ce que tu peux nous parler de ces livres, ou s'il y avait des recueils, ou c'est plutôt des poèmes? Est-ce que tu peux nous en parler?
En fait, j'ai commencé à écrire assez tôt. Assez tôt, je ne sais pas, 8 ans, quelque chose comme ça, des petites histoires comme ça. Et puis, vers 15 ans, quand j'avais 15 ans, j'ai fini une sorte de recueil, un recueil de poèmes que je voulais publier. Et il y avait un poète célèbre. Un poète célèbre, poète universitaire célèbre, du nom de Elie Rasonason. Je lui ai filé mon manuscrit en espérant que, je ne sais pas, il allait conseiller ou bien quelque chose comme ça. J'avais dans la tête que c'est ce qu'ils étaient censés faire, les aînés. Mais il n'a pas fait ça. Il a fait quelque chose d'autre. J'étais particulièrement déçu. Et puis, quelques années plus tard, j'ai publié de façon très anarchique un livre, Literas Barengo, le livre Q, deux livres en malgache d'une part, en français d'autre part. C'est un livre très. Je dirais expérimental, quelque chose que je n'aurais jamais pu publier, du moins ici, dans une maison d'édition, quelque chose comme ça. Tout le monde m'aurait dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu racontes ça? Il y a des choses osées dedans. Il y a des choses. Je me suis lâché sur ce livre. Et en fait, on a commencé à me connaître à travers ce livre, et j'ai commencé entre guillemets une carrière d'artiste. J'ai appris plus tard que ce que Joël Andrian Mearsu a qualifié ce que je faisais de artiste d'art conceptuel. Donc, j'ai commencé une petite carrière en tant qu'artiste conceptuel qui semble continuer jusqu'à présent. Et aussi, entre-temps, récemment, j'ai publié, on m'a publié plutôt, une nouvelle dans une anthologie de science-fiction européenne. La nouvelle s'intitule Siri mon amour, Zuckerbook, ma patrie. Siri mon amour, Zuckerbook, ma patrie. Les grandes lignes, je dis les grandes lignes, j'ai pas mal de choses, j'en oublie. Même Lies Mianzouri, des fois j'oublie. Ah oui, on m'en parle. Ah oui, ah oui, ah oui.
Ah oui,
Ça
j'ai écrit ça.
parle. Je m'en souviens. Ça parle de quoi? Ah oui. Non, j'exagère. Mais parfois je suis tellement dans la création, on va dire que. Mais en parlant de Lies Mianzouri, je pense que je devrais. On me rappelle que je devrais faire un peu plus la promo et tout ça, en parler un peu plus, organiser des rencontres et tout ça. Je pense que je...
Justement, comme tu parles de Lizzie Mianzouri, ben je vais pas tout dire, je vais te laisser un peu la parole, mais c'est un roman paru aux éditions Randassou Publishing en 2017, hein, j'espère que je ne dis pas de conneries. Il a été considéré par plein de gens comme étant le livre de l'année 2016, et ma foi, c'est un roman complètement écrit en malgache. C'est un malgache très facile à comprendre, et est-ce que tu peux nous résumer ce roman? Et c'est ton petit exercice du jour par rapport à Lizzie Mianzouri, est-ce que tu peux nous résumer l'histoire de Lizzie Mianzouri?
Alors, c'est Liz c'est le prénom d'une jeune fille qui un soir, elle débarque dans la chambre d'un gamin, d'un adolescent, qui s'appelle Rabé. Elle débarque, bam, vlam, dans sa chambre, elle entre, on sait trop où, là, Rabé, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, Liz, elle dit, Tout est en train de brûler. À Tananarive ou Madagascar, même le monde, c'est en train de brûler. Tout est détruit. Viens avec moi, il y a un autre Tananarive, il y a un autre Madagascar, il y a un autre monde où on a fait des choix un peu plus sages, où il y a des téléphériques à Tananarive, par exemple, où la canousse, on peut toujours s'y baigner, ou on peut aller en train jusqu'à Mazang, un peu partout, quelque chose comme ça. Et alors, Lys, elle dit, Rabé, tu viens ou pas? Parce qu'on a besoin de toi aussi là-bas. Et là, Rabé, il vient. Ça commence à peu près comme ça.
D'accord. Nickel. Et dis-moi, pourquoi le choix d'écrire ce roman complètement en malgache?
Le choix, c'est la langue tout d'abord qui s'est imposée à moi. De fil en aiguille, l'idée m'est venue en malgache dans ma tête. Ce n'était pas un choix conscient au tout début. Je vais écrire ça en malgache, je vais écrire en français. Ça n'a jamais marché pour moi en tout cas. C'est la langue qui s'impose, le malgache ou le français. Parfois, l'anglais commence à s'immiscer. C'est une autre histoire. Et donc, le malgache s'est imposé. Et ensuite, je me suis dit que bon, ça tombe bien parce qu'il y a tellement peu de nombres vraiment ridicules de nouveaux livres en malgache, surtout ceux qui parlent à la génération actuelle, à nous, jeunes et tout ça. Il y a pratiquement pas de livres, pas de romans, pas d'histoires en malgache qui nous parlent, qui est des références d'aujourd'hui et tout ça. Il y a d'excellents romans, mais c'était il y a des décennies, 80, 70, 60. Donc là on ne se voit pas, on regarde des films, on lit des livres, c'est bien, les États-Unis c'est bien, la France c'est bien, et tout ça, le Japon et tout ça, la Corée et tous ces pays, l'Inde, et tout ça c'est bien. Mais il y a quelque chose qui devrait nous parler à nous, ici, dans ce contexte, dans l'endroit où l'on vit. Et pourquoi pas en malgache aussi, parce que c'est une belle langue. Et c'est quelque chose comme ça. Je ne dis pas que c'est un devoir pour moi de... Non, je ne le ferai pas si je sentais que c'était un devoir. C'est un challenge aussi de faire ça en malgache pour écrire livre que j'aurais aimé lire, en fait, quelque chose comme ça.
Je reviens un peu sur Lizzie Mianzouri, où en fait, Liz, elle va, enfin, si je puis dire, nous emmener dans une autre dimension de Madagascar. Est-ce qu'on peut dire que c'est la vision que Monsieur Nzou a pour un futur Madagascar et que c'est possible d'atteindre ce futur-là?
Est-ce que c'est une vision? D'une certaine manière, je ne vais pas nier. Disons que c'est plutôt une façon pour moi de... D'une certaine manière, oui, je ne vais pas nier, c'est une vision. Et c'est aussi une façon pour moi de revoir l'histoire de Madagascar, quelque part à travers aussi l'histoire du monde, parce que ça s'entremêle quelque part, ça se chevauche, parce qu'il y a certains passages où je parle du monde, du monde d'une certaine manière. Et c'est une façon assez amusante de revoir les choix que les gens d'avant ont fait. Quelque chose comme ça, un côté assez sérieux, mais j'en parle comme ça a l'air sérieux, mais c'est, j'essaie de raconter ça d'une manière smooth, on va dire, d'une manière smooth, de façon à ce qu'on ne se prend pas la tête. Pour répondre à ta question, pour revenir à ta question, est-ce que ça pourrait arriver? J'espère bien, peut-être pas exactement. Je ne pense pas que ça pourrait exactement arriver comme c'est écrit dans l'Ismianzuri, mais je pense que tout commence par des choix. On pourrait, en tant que population de Madagascar, et les gens qui vont prendre des décisions, nous, en tant que citoyens qui prenons des décisions, on pourrait prendre de meilleures décisions, des décisions un peu plus avisées, quand de fil en aiguille, petit à petit, ça pourrait former une boule de neige vertueuse qui pourrait raser les mauvaises décisions, on va dire, ou tout ce qui n'est pas judicieux, on va dire. Enfin, j'espère, je pense que je ne suis pas le seul à espérer un lendemain vertueux, plus vertueux.
Ouais, je crois qu'on est pas mal. D'après toi, à Madagascar, quels sont les défis auxquels les écrivains malgaches sont confrontés, on va dire, ces 5 dernières années?
Ces 5 dernières années. L'avènement, le premier défi, avant ça, le premier défi, c'est comment utiliser ce nouvel outil qu'est l'Internet. Internet, surtout son côté réseau social, les réseaux sociaux. Comment utiliser cet outil, les réseaux sociaux, de manière à ce que ça soit bénéfique pour l'écrivain. Parce que je pense que pas mal d'écrivains sont conscients que c'est quelque chose, tout le monde semble y être. Il y a du n'importe quoi, mais il y a aussi des possibilités, il y a du potentiel. Je pense que c'est le premier défi. Mais ensuite, il y a toujours le défi que, bon, le monde de l'édition décline de plus en plus, il n'y a pratiquement rien. C'est triste. C'est triste par rapport aux autres pays développés, bien évidemment, mais aussi en voie de développement. C'est un autre défi. Il n'y a pas d'éditeur qui va pousser l'écrivain, allez, viens, dans le sens éditeur du terme. Oui, vraiment, tu vois, éditeur, c'est comme un peu comme un mentor, comme un ami, comme quelqu'un, comme un coach, quelqu'un qui connaît aussi le milieu, qui connaît le livre, bien évidemment, qui peut se mettre à la place d'un écrivain, mais puis qui peut aussi se mettre à la place du lecteur et qui connaît le marché, parce que c'est un marché, quoi que tu dises, qui connaît tout ça. Il n'y a pas tellement ça ici. Donc, entre je vais écrire, j'ai besoin d'écrire, j'ai déjà écrit ça, et puis quoi? Et puis ensuite, quoi? Il y a un besoin, on est dans l'ère des startups et des disruptions. Il y a ce besoin de se renouveler. Je pense que les écrivains qui sauraient se renouveler, s'adapter à notre époque, aux enjeux de notre époque et technologies de notre époque, sauront prospérer. Ceux qui, hélas, ne pourraient pas faire ça, j'espère qu'il y aura des éditeurs bien assez tôt pour les accompagner, parce que tous les écrivains ne pourraient pas faire ça.
Autre question. Mais du coup, je l'avais déjà posée à certains, on va dire, artistes qui sont passés dans le podcast Invovo. Et là, je te la pose à toi aussi. Est-ce qu'on peut vivre de ton métier à Madagascar? Et vous avez tous rigolé aussi pour répondre.
La réponse à cette question est assez complexe, on va dire. Non, la première chose qui nous vient en tête, c'est non. Non, pas du tout. On ne peut pas en vivre selon le contexte actuel. Il n'y a pas, l'écosystème est foutu. C'est plus bas que terre. Et il n'y a aucun appui. Il n'y a rien, pratiquement rien. C'est le désastre. Avant, il y a quelques décennies, il y avait quelque chose. On pouvait en vivre. Des écrivains pouvaient même parcourir le monde entier dans des colloques et tout ça. Mais de nos jours, non. Mais je vais sur une note, je dirais, assez réaliste. Je n'aime pas tellement utiliser le terme optimiste. Je dirais réaliste, d'un point de vue très réaliste. On a des potentiels. Il y a des, dans, on va dire, dans cette, la dynamique des startups et tout ça. Si on raisonne en tant que start-upper, on va dire, on pourrait en vivre, on pourrait en vivre parce que là, on ressent qu'il y a la demande, il y a beaucoup de les gens qui disent que ah, les Malgaches ne lisent pas, la jeunesse n'aime pas lire, les jeunes ne lisent pas. Ces gens-là ne lisent eux-mêmes pas et tout ce qu'ils font, c'est décourager les autres. Mais ce que Facebook nous a permis de voir, c'est qu'il y a beaucoup de Malgaches et de jeunes qui aiment lire et qui se regroupent, qui partagent leur passion pour la lecture et qui demandent et on le demande. Donc, il y a les lecteurs, il y a aussi des écrivains. Il suffit de trouver un moyen de. Personnellement, j'aimerais pouvoir en vivre dans le sens où. Ou dans le sens où dans les pays qui n'ont pas oublié, qui ont plutôt dans les pays qui ont oublié d'être cons, où on peut bien vivre de écrivain. Quel est ton métier, écrivain? Je peux payer mes factures avec. Il y en a, la plupart galèrent dans le sens où ils ne roulent pas en Porsche, on va dire, mais ils peuvent payer leurs factures et tout ça. Il y a tout un écosystème vertueux qui n'est pas parfait. C'est aussi un combat de tous les jours là-bas. Comme ici, ça devrait être il y a une lutte à faire, mais j'aimerais bien. Je ne suis pas dans le. Tu vois, ah, je me plains tout le temps, ah, l'État, le blabla, tout ça. Je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Je suis plutôt dans l'état d'esprit où, bon, je ne sais pas, do it yourself. Et aussi, il faut bien recadrer l'État dans son devoir, quelque chose comme ça. Mais je pense que il se pourrait bien que d'ici quelques années, on pourrait les prochaines générations, j'aimerais bien contribuer à ce que les prochaines générations pourraient en vivre, de être écrivain, en vivre. J'aimerais contribuer à cela.
Ce serait comment? Attends, il y a un mot précis sur le bout de la langue, mais je l'ai oublié. Enfin, j'ai oublié le mot. Mais en gros, en fait, ce serait un acte honorable de ta part pour que justement la génération future puisse, on va dire, se vanter d'être écrivain et de pouvoir payer ses factures. Peut-être pas rouler en Porsche, mais disons rouler au moins en voiture. Tant que la voiture roule, c'est ça qui est important. J'adore les scoops. Donc, est-ce que tu peux nous dire si tu as des projets en cours, un livre sur le feu? Dis-nous un scoop, s'il te plaît.
Ok. J'ai des projets en cours au pluriel. Donc. Je suis en train de. Par où commencer? Traduire en malgache de la poésie indienne. J'en suis. Oui, ça, c'est quelque chose d'assez particulier, de particulièrement intense dans le sens là. La poésie, c'est déjà c'est quelque chose d'une profondeur, quelque chose d'inhérent. Et ensuite, de la poésie indienne, il y a de la poésie traditionnelle et quelque chose comme ça. C'est une rencontre assez particulière. Je pense qu'après le confinement, j'espère qu'il y aura un monde après le coronavirus.
Il y en aura, ça c'est sûr.
Après le coronavirus, quand tout ça se tassera, je pense qu'on entendra un peu plus parler. Et un autre projet en cours, je suis en train de réécrire mon premier roman en français. En français, c'est. Oui, il y a la maison d'édition qui attend ce travail de réécriture. Mais ça, ce sera, je ne sais pas, 2021, 2022, parce que ça prend du temps. Ça prend quelque chose comme ça. Comme ça, j'ai commencé il y a quelques années. Et quoi d'autre? Je suis aussi sur un projet, là, un autre scoop, un gros projet bilingue que j'ai commencé il y a des années, que je sais pas, peut-être vers la fin d'année ou bien l'année prochaine, quelque chose comme ça, je commencerai à en parler. Un projet, gros projet bilingue, un gros projet d'écriture et tout ça. C'est ce qu'il y a sur le feu. La cuisine est assez animée.
Mais écoute, c'est super que malgré la pandémie, en fait, tu avances sur tes projets. Bon, on va être patient, hein, on va être patient. 2021, donc on aura Monsieur Nzou qui revient sur scène avec son groupe de musique et aussi son roman en malgache, en français plutôt, c'est ça?
Français, plutôt en français, oui. Et
Français.
plutôt 2022, je pense, pour le roman. Ça dépend de quand je vais,
Ouais.
d'une part, et d'autre part, le calendrier de la maison d'édition pour. Je pense que ce sera plutôt quelque chose de fin 2021, 2022, je sais pas. Mais le projet d'écriture, le projet bilingue, malgache-français, je pense que 2021, on va en entendre parler, je pense, j'espère.
Super. Nous aussi.
Yeah! C'est bien, ça fait plaisir.
Je vois qu'en pleine pandémie, quand même, Nzou, tu es plutôt productif, si je puis dire, mais à te dire que la pandémie, elle a pas vraiment eu d'impact sur ton métier d'écrivain aussi.
Si, la pandémie a eu un impact, je dirais assez considérable parce que il y avait quelques semaines, pour ne pas dire quelques semaines, où je ne pouvais pas tellement me concentrer, on va dire, me concentrer, tout ça. Psychologiquement, physiquement, c'était assez dur, donc ça a impacté. C'est quelque chose de. Je pense que c'était quelque chose. C'est toujours en cours, c'est quelque chose, la pandémie, c'est quelque chose qui se vit. Et quelque part aussi, je ne pouvais pas m'écarter de ça. Je me devais, mais je le voulais ou non, de toute façon, de vivre cela, de vivre pleinement cette pandémie, de la ressentir. Et tout ça pour. Je ne sais pas, c'est dans un processus de vivre en même temps et la réflexion aussi, si d'une part. Donc, si la pandémie a eu des impacts sur mon métier d'écrivain, mais pas au point où je suis complètement en arrêt, heureusement. Je ne peux pas m'empêcher de toute façon. On peut dire que je suis quelque chose comme un workaholic, on va dire. Je j'ai pas de j'ai perdu le bon Dieu n'a pas cru bon de mettre un bouton en pause. Mais c'est bien, je m'en plains pas. Et cette pandémie a eu raison de moi, de nous tous, on va dire. Une réflexion nécessaire.
Tout ça. Et ma dernière question, Zou, là on est déjà, écoute, on est le 1er août, hein, on est le 1er août, cette interview se fait le 1er août. Est-ce que tu peux nous dire ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de l'année 2020?
Réalisation, j'aime bien le mot réalisation, parce qu'il y a la phase de création, je pense que la phase de création, ça va, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais d'aller de créer à délivrer. J'aimerais bien pouvoir sortir quelque chose, présenter quelque chose d'ici la fin de l'année. Et continuer dans cette voie. Si on peut me souhaiter des choses, c'est de continuer. Et je souhaite la même chose pour les gens je dirais pas pour tout le monde, je pense que tout le monde devrait, mais je souhaite la même chose pour les gens qui aient des aspirations vertueuses, qui veulent faire bouger les choses, de réaliser ce qu'ils entreprennent, ce que nous entreprenons, d'entreprendre avec une certaine, pas trop d'inquiétude, que cette situation ne parvient pas à nous, je sais pas, à nous écarter, à nous ôter la niaque, quoi. La niaque. Ouais, souhaitez-moi la niaque. La niaque. Cette niaque, on dit. Bien, je sais pas, tu vois, ça, c'est l'énergie de zen, zen. Je sais pas, je sais pas. Moi, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais zen, ça c'est bien bien, à rester zen. Je souhaite ça, on pourrait me souhaiter ça, je te souhaite ça aussi, et je souhaite ça à tout le monde, quoi, de rester zen. Il y a tellement de stress dans cette société, dans le monde. Ça, les gens deviennent pénibles. Il faudrait plus de zen, tu vois, déstressant. Peut-être que avec moins de stress, on pourrait moins. Ou bien du stress positif. Le stress positif, c'est super. C'est super de l'énergie pour faire bouger les choses, pour sortir cette société de la honte. On devrait être, je sais pas, quelque part près de Mars, ou bien. Non, 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 je c'est la réponse à cette question est assez longue, mais s'il n'y avait qu'un mot, c'est zen, zen, zen.
Ok. Merci beaucoup, Nzo, pour cette interview.
Je t'en prie.
Écoute, on te souhaite énormément de zénitude pour le reste de l'année, mais aussi pour les projets de 2021, 2022 et toutes les années qui arriveront. On a hâte de découvrir en fait tous tes petits chefs, non, pas petits chefs, découvrir les grands chefs qui sont sur le feu en cuisine en ce moment.
Bah écoute, merci. Merci. Oui, mais ça me touche. J'ai apprécié ce moment d'échange, cet entretien, cette interview, cette discussion. Ouais, c'est bien, ça fait chaud au cœur, j'en avais besoin. Merci. Merci pour cette émission. Et je te souhaite demain zen et de la réussite, de la prospérité et tout ça, tout ça, tout ça. Que du bon.
Merci infiniment et à très vite.
Oui. Aïe, aïe, aïe. Ciao.
Et hop, c'est tout pour l'épisode 18. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à partager à votre entourage. J'espère que vous vous portez bien d'où vous m'écoutez. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier pour cela. Mais aussi, en fait, j'ai une bonne nouvelle à vous partager. L'association EC que j'ai reçue pour le dernier épisode, comme vous le savez, avait lancé une cagnotte. Eh bien, sachez qu'à l'instant où je vous parle, leur cagnotte est à 85% de leur objectif. Ils ont pu réunir 17 306 euros sur les 20 000 euros. C'est super! Et d'ailleurs, si vous voulez encore y participer, je vous y encourage. Allez, prenez soin de vous et passez une bonne semaine !